Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movie spécial Champs-Élysées Film Festival 2023, jour 4. Et donc aujourd'hui, j'ai fait trois séances dont je vais vous parler. On commence tout de suite par La Sirène de Sépideh Farsi. En 1980, sud de l'Iran, les habitants d'Abadan résistent au siège des Irakiens. Omid, 14 ans, a décidé de rester sur place, mais tandis que l'étau se resserre, il va tenter de sauver ceux qu'il aime en fuyant la ville à bord d'un bateau abandonné. Alors, c'est un film qui a été présenté et à Berlin et au Festival d'Annecy, voilà, donc qui avait déjà fait plusieurs festivals, qui sort d'ailleurs dans quelques jours, hein, le 28 juin au cinéma, il me semble. Voilà, et donc j'avais plutôt hâte, en tout cas j'étais très curieux de découvrir ce film, même si j'en avais eu des retours quelque peu mitigés, voilà, mais j'étais très curieux, surtout vu le sujet tout simplement, et donc j'ai pas pu rester pour le Q&A parce que j'ai dû enchaîner avec la séance d'après, voilà, les deux premières séances ça a été ça d'ailleurs, malheureusement, voilà, il fallait bien enchaîner, et donc oui, pour le coup, la réalisatrice quand même en ouverture a dit que c'est un film qui avait pris 8 ans à faire, voilà, donc à peu près le même nombre d'années que la guerre, donc ça le rend encore plus symbolique, et voilà, donc je vais rentrer tout de suite dans ma critique. C'est pas un film que je mettrais dans la case des réussites, voilà, c'est un film qui, ce serait quand même un peu dur, que c'est une petite déception vraiment, mais voilà, donc c'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'était un film qui a de grosses qualités, vraiment de grosses qualités cinématographiques. Voilà, je pense notamment à l'animation qui est vraiment splendide, qui est vraiment sublime, voilà, notamment dans les couleurs. Surtout par rapport à ce qui est fait, je trouve, au niveau des explosions qui sont à part entière vraiment du film, ça c'est partie intégrante du film. Voilà, que ce soit visuellement, que ce soit de manière sonore, c'est vraiment, il y a un vrai travail là-dessus, voilà, pour faire vivre cette guerre. J'ai également beaucoup aimé tout le propos, voilà, autour de Omid, le personnage principal, voilà, qui, comme j'ai dit dans ce film 6, n'a que 14 ans et qui en fait doit passer de cet âge de 14 ans adolescent à un âge adulte en fait, parce qu'il n'a pas le choix. Son frère est envoyé au et donc pendant une grosse partie du film il va, voilà, tenter de retrouver son frère, et c'est, voilà, aussi un film qui donc va raconter comment en fait on se construit, voilà, dans cet environnement là comment voilà, cet adolescent de 14 ans va se construire dans un environnement de guerre pour vraiment faire son passage à l'âge adulte, pardon, assez prématurément du coup, voilà, et pour le coup c'est un propos que j'ai trouvé assez fascinant, un propos sur voilà, comment on vit dans un pays de guerre, surtout quand on n'est pas majeur, quand on est, voilà, un enfant comme ça, c'est-à-dire que sa mère et son petit frère ont fui en fait dès que le conflit a commencé, lui est resté notamment avec son grand-père, et donc en fait il y a ce truc là où il est un peu aussi livré à lui-même, où justement il se met un peu dans une posture de sauveur comme on, voilà, vous l'avez entendu, voilà, il y a cette chose là très intéressante de la manière dont l'enfance, voilà, réagit, en tout cas l'enfance ou l'adolescence réagit avec cette guerre, et il y a notamment quelque chose qui est très significatif, je pense, c'est le terrain de foot qu'on voit trois fois. Donc il y a une fois, les enfants sont en train de jouer en fait, juste avant une explosion, et donc le terrain est rempli, voilà, ça joue, le terrain, les buts sont en bon état, voilà, la deuxième fois il y a encore moins d'enfants, mais dans mes souvenirs ils ne jouent pas, mais il y a juste moins d'enfants, et donc on voit les buts avec les filets déchirés, les poteaux tordus, etc. Et donc la troisième fois les buts sont dans un état encore plus déplorable, et donc il reste que un enfant, voilà, quand Omid arrive sur le terrain, et donc évidemment on joue plus du tout au foot, hein, voilà, et donc je trouve que en termes de métaphore de la guerre, de métaphore de comment on se construit avec la guerre, je trouve que l'utilisation du terrain de foot était très intelligente pour le coup, et donc c'est un film aussi qui offre un travail de montage très remarquable, voilà, en plus de son animation qui l'est tout autant d'ailleurs, et donc c'est assez intéressant, voilà, de voir ce film dans un contexte de guerre en Ukraine notamment, parce qu'on voit beaucoup dans ce film d'attaques sur les civils, voilà, et il y a des choses aussi très intéressantes, voilà, notamment concernant cette attaque de civils. Il y a une scène où, sans trop spoil, voilà, où on voit des troupes qui, voient très bien que ce qu'ils ont devant eux, c'est des civils qui sont pas armés, voilà, qui ne représentent aucun danger, et donc ils demandent à leur hiérarchie, à leur direction, enfin leur direction, c'est pas comme ça qu'on dit, mais bref, à leur général, s'ils doivent ouvrir le feu, et donc le général dit d'ouvrir le feu, et en fait ça pose beaucoup de questions. question, voilà, c'est comme en Russie, techniquement, enfin en Ukraine du coup, la guerre, les Russes ne sont pas obligés de faire ça, voilà, ils le font parce qu'ils obéissent aux ordres, voilà, ça c'est l'excuse qui se donne, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'obéir aux ordres, voilà, ça c'est quelque chose, voilà, qui pour moi se pose implicitement dans le film, mais qui est quelque chose de très intéressant, est-ce qu'on est obligé d'obéir aux ordres, surtout quand ça implique des civils, voilà, en toutes circonstances, hein, bien évidemment, hein, moi je, enfin après, qui n'est pas anti-guerre, mais bref, mais effectivement, oui, moi je suis quelqu'un de profondément pacifiste, et pour le coup, voilà, je trouve que, notamment plus la question des civils, voilà, c'est quand même un crime de guerre, littéralement, il y a quand même, voilà, je trouve ça quand même, bon, parenthèse, mais je trouve ça quand même assez fou que l'être humain se soit dit, on va réglementer la guerre, au lieu de se dire, on va arrêter de faire la guerre, bref, mais oui, donc, dans ces réglementations-là, c'est même quelque chose qui est interdit, voilà, donc, dans quelque chose d'aussi extrême que la guerre, voilà, il y a encore cette haute extrémité qu'il ne faut pas franchir, voilà, je trouve que ça interroge beaucoup de choses, et oui, notamment, c'est vrai, la question des civils qui est très, très, très bien, très, très bien amenée, je trouve, voilà, dans ce film, j'ai pas forcément suivi cette guerre-là entre l'Iran et l'Irak, j'ai dû l'étudier très brièvement, mais pour le coup, voilà, je fais entièrement confiance à la réalisatrice, et voilà, pour le coup, je trouve ça, en tout cas, très réussi de ce point de vue-là. Malheureusement, voilà, c'est un film qui a suscité chez moi pas mal d'ennuis, voilà, je trouve qu'il y a des quand même des soucis de rythme, voilà, et notamment parce que pour moi, il y a un souci de construction scénaristique. C'est un film qui se divise en deux parties. Voilà, une première partie donc qui, comme je vous l'ai dit, est plus centrée sur la quête, voilà, du frère, de retrouver son frère, voilà, qui va d'ailleurs même mener au mis au front. Et donc, quand cette intrigue-là va prendre fin, il y en a une autre qui va se lancer, voilà, qui va prendre la place. C'est donc justement cette volonté de sauver tout le monde. Et donc voilà, de réparer ce bateau abandonné et donc de sauver tout le monde littéralement. Et donc en fait voilà, je trouve que en soi c'est bien amené cette deuxième intrigue, mais je la trouve quand même de trop. Voilà, c'est-à-dire que, enfin, elle est pas forcément de trop, mais en tout cas si elle aurait dû être dans le film, je pense que ça aurait dû prendre tout le film, parce que je pense qu'il y a moyen de raconter ce qu'elle voulait raconter dans la première partie en se centrant sur cette intrigue du bateau et qui est d'ailleurs dans le synopsis, hein, à aucun moment on vous parle du frère. Voilà, c'est pour vous dire, mais donc cette intrigue du bateau, elle commence assez tard, et donc voilà, pour le coup, il aurait fallu soit ne pas la mettre, soit la mettre sur tout le film, mais en tout cas, voilà, je trouve que cette construction en deux parties, même si la transition entre les deux se fait très bien, pour le coup, est pas forcément efficace, voilà, et je trouve que ça entraîne des longueurs et des problèmes de rythme. Malheureusement, hein, parce que du coup, sinon, c'est un film qui, comme je l'ai dit, apporte des thèmes très intéressants, voilà, qui en fait, scénaristiquement, pêche, voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, et donc voilà, c'est vrai que, en plus, on arrive au quatrième jour du festival, voilà, je commence à en avoir vu des films, hein, je vous en ai débriefé énormément, et il est vrai que, bon, il faut quand même que voilà, les films arrivent à se démarquer, que voilà, pour retenir l'attention des spectateurs après 4-5 jours de festival, on est quand même à la moitié, voilà, il faut qu'un film arrive à se démarquer et quelque chose en plus. Là, en l'occurrence, il l'avait, c'était son animation, mais pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la puissance du scénario et en l'importance surtout du scénario, et pour le coup, je pense que le scénario est à la base d'un film, voilà, que ça en est le cœur, et pour le coup, voilà, on peut faire des bons films sans bon scénario, je pense que c'est possible. Voilà, nous-mêmes, on peut faire des bons films sans scénario. Je pense que Gaspard Noé, l'a prouvé maintes et maintes fois, mais c'est très compliqué. Et là, pour le coup, malgré toutes les qualités visuelles du film, je trouve qu'il y a quand même trop de défauts d'écriture que je peux pas ignorer. Et voilà, donc qui malheureusement ont conduit à un certain ennui, voilà, de ma part. Voilà, j'aurais voulu que ce soit pas le cas parce qu'en plus, c'est un beau film. Voilà, qui aborde un thème important et qui le fait bien, mais pour le coup, voilà, malheureusement, je peux pas omettre, voilà, de parler de ce scénario et de ce souci de construction, mais ça reste quand même, je pense, un film qui en tout cas est très honorable et qui est quand même assez important dans sa démarche. Et pour le coup, voilà, je sais pas si je vous le conseillerais forcément, mais si jamais ça vous tente, oui, je pense que ça vaut le coup d'y aller parce que vous y trouvez forcément quelque chose de bon. Allez, on va maintenant passer au programme 1, pardon, des courts-métrages en compétition française aussi. C'est la seule séance des courts-métrages que je fais, voilà. Et donc, sur les 5 que j'ai vus, il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Voilà, j'avoue que les 3 autres, pas tellement, donc je vais vous parler que de ces 2-là. Et on va commencer, voilà, je vais essayer de faire court, mais on va commencer avec Invisible de Mathieu Salmon. Donc, le synopsis, c'est ce jour-là, Louise se sépare d'Hicham et elle apprend que son CDD au sein de la société où ils travaillent ensemble ne sera pas reconduit. Autour d'elle, tout s'effondre. Et donc, c'est un film qui a l'intelligence de partir dans le cinéma de genre, voilà, qui donc prend comme actrice principale Pauline Lauriard, qui donc, personnellement, je l'avais découvert pour la première fois parce que j'étais en spécialité théâtre et que donc au programme, l'année où j'ai passé le bac, il y avait la mise en scène de Stéphane Bourgevec de Tartuffe, et donc elle jouait dans ce Tartuffe-là. Et donc, c'est la première fois que j'ai découvert Pauline Lauriard, pardon, dans une œuvre artistique, quelle qu'elle soit. Mais donc, vous me direz, ça n'a pas tellement de rapport avec le cinéma de genre, et vous avez raison. Par contre, ce qui a du rapport avec le cinéma de genre, c'est peut-être que, voilà, je pense que la première fois où j'ai dû la voir au cinéma, c'est dans les films de Bertrand Mandicot, voilà, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui voilà, fait pas l'unanimité, mais que personnellement j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, oui, ça avait du sens de la prendre, et c'est un film qui, pour le coup, a un sens du timing qui est très très bon, parce que vraiment, le moment où je me suis dit, ok, là, il faut que ça parte dans le cinéma de genre, sinon, ça va pas être top, c'est vraiment le moment où le film choisit de partir dans le cinéma de genre, voilà, et voilà, tout simplement, où il choisit en fait d'exploiter cette atmosphère qu'il met en place, qui est tout à fait logique, hein, en fait, mais pour le coup, oui, il n'y a pas vraiment besoin, je trouve, où voilà, le film n'apporte pas vraiment d'explication, néanmoins, c'est vrai qu'il reste quand même très très intéressant, voilà, dans sa mise en scène, dans son atmosphère assez pesante, et en fait, dans cette histoire, voilà, où littéralement, comme c'est dit dans le synopsis, autour d'elle tout s'effondre. Pour le coup, voilà, quand on lit ce synopsis là, on dirait vraiment qu'on parle juste d'un drame social, et je pense que c'est un film qui aurait pas forcément été intéressant s'il était juste un drame social. Et voilà, le fait de le basculer dans le genre, dans le fantastique, et même sur la fin quand même dans l'horreur, hein, clairement, voilà, où il y a ces choses surnaturelles où on sait pas vraiment ce qui se passe, qui voilà, sont je trouve très bien amené, voilà, puisque bon, bah, comme l'indique le titre, on ne voit pas en fait ces choses-là, et donc il est vrai que c'est quand même un film qui est très bien fait, voilà, même en termes de bah, pour filmer l'invisible, ce qui est plutôt compliqué pour le coup, voilà, mais pour filmer l'invisible, oui, c'est vrai que c'est bien fait. Je sais pas quelle technique a été utilisée, mais en tout cas, pour le coup, à l'écran, ça apparaît très 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 bien. Donc voilà, mine de rien, est quand même un personnage qui, je sais pas si je dirais jusqu'à être attachant, mais en tout cas, on peut s'identifier à elle, on peut la comprendre, on peut avoir de l'empathie pour elle. Donc effectivement, c'est pas mal, il y a cette figure centrale auquel on peut se raccrocher. Voilà, et donc pour le coup, je trouve quand même que c'est un film qui, bon voilà, n'est pas non plus 100% dans vraiment je vais transmettre un propos, mais qui pour le coup bah, a vraiment une volonté de mettre du fantastique et juste voilà, laisser ce fantastique prendre le dessus sans vraiment apporter d'explication ou quoi. Et voilà, moi c'est ça qui m'a plu. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque en me disant que ce film serait probablement à l'étrange festival, voilà, on verra bien. Et donc le deuxième, voilà, j'en ai beaucoup parlé, mais j'attendais beaucoup ce court-métrage, qui est L'acteur de Hugo David et Raphaël Quenard. Voilà, Raphaël Quenard qui est un acteur absolument formidable. Donc je vous lis le synopsis. Raphaël est acteur, pour la première fois il a le rôle principal d'un long métrage, personne ne comprend pourquoi il a été choisi. D'ailleurs, personne ne le comprend vraiment. Et pour le coup, voilà, je pense que c'est un très bon résumé du film. Et c'est un film qui est absolument hilarant. J'ai passé 25 minutes à vraiment me taper des énormes barres. Et voilà, je trouve que... c'est évident, mais Raphaël Quenard, bien évidemment, y est pour quelque chose. Mais pas que. Voilà, parce que pour le coup, il y a toute l'équipe. En fait, c'est un film qui a été tourné pendant le tournage du film Chien de la casse. Voilà, c'est un faux documentaire où en fait... pour le coup, Raphaël Quenard apparaît comme un acteur. Voilà, il y a cette phrase du réalisateur de Chien de la casse qui dit en fait, c'est la caricature de l'acteur raté. Voilà, où vraiment, à chaque fois, il en fait des caisses, il fait n'importe quoi sur le plateau, etc. Et en fait, tout le monde finit pour en avoir marre de lui. Et c'est assez rigolo parce que, bon, pour avoir vu Chien de la casse, c'est quand même l'opposé. Raphaël Quenard est absolument excellent dedans. Et le réalisateur, dans l'acteur, n'arrête pas de dire ah, mais putain, ma carrière, elle va s'arrêter là parce que mon premier film va être raté, parce qu'il le gâche à lui tout seul, ce qui est évidemment faux. Donc du coup, voilà, il y a cette chose-là qui est très intéressante, qui est l'autodérision déjà de Raphaël Quenard. Vraiment, pour faire ça, il faut une autodérision de malade, parce que c'est sur une autodérision sur lui-même, une autodérision sur la figure de l'acteur en général. Voilà, cet acteur qui se veut un peu trop poétique, un peu trop... bref, je ne sais pas forcément comment exprimer ça de la meilleure manière possible. Mais oui, cet acteur qui en fait veut coller au cliché de l'acteur. Voilà, Raphaël Quenard dit, je crois, deux fois dans le cours, oui, mais en fait, jouer, ce n'est pas jouer, ou quelque chose comme ça. Bref, voilà, il va citer Al Pacino, etc. Enfin bref, voilà, c'est un peu la volonté de démonter ce cliché-là de l'acteur, et aussi de jouer avec l'image que Raphaël Quenard a, parce que comme je l'ai dit, c'est un acteur qui est extrêmement drôle, c'est un acteur qui est formidable, qui s'est quand même fait une réputation, notamment à partir de productions comiques, comme des films de Dupieux, comme Coupé de Michel Hazanavicius, ou comme Family Business, sur Netflix. Donc c'est quand même un acteur qui nous évoque quelque chose. Pour moi, en tout cas, quand je pense à Raphaël Quenard, j'ai tout de suite envie de sourire, j'ai tout de suite envie de rigoler, parce qu'il a une personnalité, il a un style qui fait que moi je l'identifie plus en tout cas à la comédie, et pour le coup je trouve qu'il joue aussi beaucoup avec cette image de lui-même, et notamment la phrase du synopsis qui peut exprimer ça, c'est d'ailleurs personne ne le comprend vraiment, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui fait beaucoup de longues phrases, qui va beaucoup s'exprimer avec une manière qui lui est propre, et ça c'est exploité notamment dans le film, et pour le coup ça crée des scènes absolument hilarantes, quoi. Et donc pour le coup je vais m'arrêter là pour la critique de ce film, parce que je sais que j'ai une interview avec donc Hugo David qui sortira sur ce podcast, donc effectivement il y a des choses que j'aimerais bien creuser en interview, que du coup je vais pas évoquer là parce que du coup ce serait un peu de la redite. Je sais pas si je pourrais avoir Raphaël Quenard encore, rien n'est moins sûr, en tout cas j'espère, j'ai demandé à l'avoir, je sais pas si ça se fera, je préfère pas trop non plus espérer, mais si je peux l'avoir ce serait vachement cool. En tout cas Hugo David, ça c'est sûr, c'est confirmé, je vous annonce quand même qu'il y aura cette interview dans le cadre du festival. Donc je vais m'arrêter là pour l'acteur. Si vous voulez entendre un peu plus sur le film, écoutez l'épisode de l'interview, je pense que ça va être très très bien. Et on va passer donc à la dernière séance que j'ai faite. C'est donc un autre film dans la compétition des longs métrages, cette fois-ci français, ce qui était ma plus grosse attente de la journée, avec La Bête dans la Jungle de Patrick Chia. La Bête dans la Jungle, librement adaptée de la nouvelle de Henry James, est l'histoire d'un huis clos vertigineux. Pendant 25 ans, dans une immense boîte de nuit, un homme et une femme guettent ensemble un événement mystérieux. Je vais être honnête avec vous, c'est le quatrième jour du festival, on en est à la moitié. Et quand je vous disais que pour qu'un film retienne vraiment l'attention des spectateurs, dont je fais partie, il fallait que ce soit très très fort, La Bête dans la Jungle, c'est ça. La Bête dans la Jungle, c'est le meilleur film que j'ai vu en 4 jours de festival. C'est un coup de cœur absolument immense. J'avais repéré ce film, pour vous dire, je l'ai mis dans la sélection de mon festival Tous en Salle, parce qu'en fait je le connaissais absolument pas, et en fait en me renseignant sur les films qui sortaient pendant la période du festival, j'ai vu ce film là et donc le pitch m'a tout de suite attiré, et donc pour le coup j'ai été obligé de le mettre, et donc j'avais très très hâte de le voir, parce que le pitch est juste fou et juste formidable, et donc effectivement pour moi c'était impensable de passer à côté quand j'ai appris qu'il était dans la sélection. De toute façon je vais voir tous les films de la compétition, mais celui-là encore plus. Et pour le coup, comme je dis, j'ai absolument pas été déçu, au contraire. Et donc parlons, je pense, de ce qui m'a le plus... en vrai, tout m'a claqué la gueule dans ce film, mais oui, l'interprétation, vraiment, je ne sais que dire. C'est un film, en fait, il va me falloir du temps pour le digérer, pour être honnête avec vous. J'avoue avoir hésité à demander une interview de Patrick Chia, mais en fait, je ne saurais pas quoi lui demander, parce que j'ai vraiment besoin que le film s'installe en moi, qui mûrisse, que je le digère. Mais bref, je peux déjà vous parler quand même de certaines choses, notamment l'interprétation. Que ce soit Anaïs de Moustier ou Tom Mercier, les deux sont excellents, mais je dois avouer quand même que j'adore Anaïs de Moustier à l'origine, mais vraiment dans ce film, je peine à trouver des mots pour décrire l'effet que sa performance a eu sur moi, parce que elle est envoûtante, elle est hypnotisante, elle est... Pff, bref, elle est géniale tout simplement, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est... Ouais, ouais, je sais pas, vous voyez, c'est compliqué tellement... voilà, j'ai adoré sa performance, je trouve qu'elle porte le film, c'est absolument, absolument splendide. Voilà, et en fait... ce qui marche beaucoup aussi, c'est l'alchimie entre les deux. Voilà, parce que en plus, dans le propos, on a quelque chose de quand même vachement beau. On est sur un... Donc en fait, la chose qu'il guette, cet événement mystérieux, c'est quelque chose qui est censé arriver au personnage de Tom Mercier. Voilà, et pour le coup, c'est... Comment dire ? Lui, en fait, pense que sa vie... ne prendra du sens. En fait, il se dit que cet événement est tellement énorme que ça va changer sa vie et que du coup, en fait, tout ce qu'il pourrait vivre avant ne compte pas. Voilà, et que c'est vraiment qu'à partir de cet événement-là qu'il pourra vivre vraiment, véritablement. Et donc, cette chose assez paradoxale, voilà, dans le sens où elle, pour le coup, le personnage d'Anaïs de Moutier, qui s'appelle May d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, pardon, le personnage de Mercier s'appelle John, mais donc John est vraiment... n'est pas vraiment là, en fait, alors que May, elle est vraiment un peu dans le terre-à-terre, où vraiment... Elle utilise cette situation ici pour se sortir de sa vie, voilà, pour mettre un pied en dehors de la vie. Et il y a des phrases absolument magnifiques, comme à un moment elle dit un truc du style « le temps n'existe plus, c'est magnifique », voilà, ou alors elle dit qu'en fait, John lui permet de mettre un pied en dehors de la vie. Et effectivement, c'est une vérité, hein, voilà, elle l'utilise aussi pour ça, mais c'est pas que ça pour le coup, puisque elle est quand même dans le terre à terre, elle a quand même envie de profiter de sa vie, elle a quand même envie de vivre, de danser, de faire toutes ces choses là, alors que lui est vraiment détaché. Lui, pour lui, c'est limite si ça vaut pas la peine de vivre jusqu'à ce que cette chose là soit arrivée. Donc en fait, il y a un truc qui commence à s'installer, voilà, et en fait, où. Bref, ça commence à fourmiller dans nos têtes, voilà, en termes de réflexion, un peu ce que le film veut transmettre, en fait, voilà, est-ce que limite ça vaut la peine de vivre, ça vaut la peine d'attendre aussi, parce que en soi, il n'est pas sûr que ça va arriver, il en a l'intime conviction, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr, donc voilà, il y a un propos sur l'attente aussi, et surtout, en fait, est-ce que justement dans cette attente, il ne passe pas à côté de quelque chose, voilà, c'est des choses qui tout de suite viennent se montrer en fait tout simplement dans ce film, moi qui m'ont assez marqué immédiatement, et donc oui ce propos sur l'attente, voilà, qui est très 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 impressionnant, très bien géré, je trouve, voilà, qui pour le coup nous fait vraiment aussi traverser les époques. Il y a quelque chose voilà dans l'ordre des vêtements, dans l'ordre des styles vestimentaires, mais aussi dans l'ordre de l'esthétique, voilà, qui nous indique ces changements d'époque. Au début, on est beaucoup sur un style en pellicule qui pour le coup, voilà, le grain de la pellicule est très très marqué, et la photo est absolument splendide, même les éclairages et tout sont magnifiques. Il y a un plan, moi, qui m'a claqué la gueule, que j'ai encore en tête et que j'aurai en tête pendant longtemps, c'est le plan avec l'éclipse de lune, voilà, où ils se retrouvent tous les deux seuls dans le club, où c'est, ce plan avec la lumière de la lune qui traverse la fenêtre, il est absolument splendide. Et donc il y a aussi des petits repères temporels comme l'élection de Mitterrand, comme l'attentat du 11 septembre, etc. Voilà, c'est des petits, la chute du mur de Berlin aussi, c'est des petits repères temporels qui nous permettent de se situer dans l'histoire. Donc il est vrai que c'est pour moi un propos sur l'attente qui tient bien, notamment aussi grâce aux personnages secondaires qui ne sont pas là pour exister en tant que personnages, mais qui sont là pour servir cette intrigue de l'attente, je trouve, mais c'est pas problématique à mon sens, voilà, parce qu'en soi ils sont pas importants dans l'intrigue. En fait, les deux acteurs principaux ont un tel magnétisme que c'est pas du tout gênant, en fait, et je pense que c'est un film qui va beaucoup beaucoup grandir en moi, en fait, voilà, qui est d'une beauté mais sans nom, qui est d'une beauté déjà visuelle sans nom, qui est d'une beauté dans son propos aussi qui est sans nom, et voilà, je pense que c'est un film qui est absolument pas fait pour plaire, mais en fait j'ai été absolument transcendé là-dessus. Je comprends, j'ai parlé avec des gens à la sortie, je comprends que ça puisse laisser en dehors, je comprends aussi que le fait qu'il y ait tout le temps de la musique de club pendant 1h40, ça puisse être embêtant, je le conçois, il n'y a pas de souci, mais en fait moi j'étais un peu peu comme l'état des gens qui dansent dans la boîte, en fait. Bon, j'étais pas en train de danser sur mon siège, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'étais dans cette transe, voilà. Sachant que cette transe-là, je l'ai connue, en fait, parce que j'ai tourné le long-métrage d'un ami, et en fait, il y a une scène où en fait, on était dans un état un peu similaire aux gens qui sont dans la boîte. Et pour le coup, eux, ils ont eu la chance de faire ça énormément de fois, où ça s'étend vraiment sur du long terme. Et donc, du coup, pour avoir déjà vécu cet état, j'ai pu en tout cas m'y replonger, pas totalement, parce que c'est différent entre le voir et le vivre. Mais pour le coup, je connais vraiment cet état, cette espèce de transe où c'est la musique qui l'emporte, où c'est... Bref, l'expression du corps, etc. Et donc, en fait, c'est un film qui est beaucoup aussi dans le sensoriel. Mais si vous arrivez à rentrer dedans, si vous arrivez à connecter, c'est quelque chose de formidable. Et pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à me connecter à ce film, vraiment émotionnellement et même mentalement. Et pour le coup, j'étais vraiment dedans. Et je me suis mis même à réfléchir sur les composantes du scénario. C'est-à-dire, si la chose ne vient pas ou si la chose est décevante, est-ce que c'est grave ? Et en fait, non, le film est réussi en tant que tel. Et je pense que même si la chose n'était jamais venue, ça aurait pas été un problème, et c'est ça qui est fort aussi avec ce film. Tout simplement, c'est que il dépend pas de son concept, il existe aussi en tant que tel, et pour le coup c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que je l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je tiens à saluer quand même le rôle de Béatrice Dalle, contribue à ancrer ce film dans quelque chose de surnaturel, je dirais même mythologique par moment, qui en plus fait une très bonne narratrice dans ce film. Et oui, effectivement, son personnage est très important, je trouve, dans le côté un peu surnaturel, on sait pas trop ce qu'il en est réellement, de cette chose, de ce lieu aussi qui a l'air vraiment de défier les lois temporelles. C'est vrai que ce soit John ou que ce soit May, on voit pas vraiment les traces du temps sur eux, on n'a pas l'impression qu'ils vieillissent, et c'est assez fort, et donc il y a tout un truc qui arrive à se créer autour de cette boîte de nuit, autour de cette histoire, et vraiment énorme coup de cœur pour ce film. Et c'est vrai que là où les deux premiers films que j'ai vus de la compétition française m'avaient vraiment laissé sur ma faim, lui, ça a vraiment tout rattrapé. Et il est venu se placer très largement en tête des visionnages que j'ai préférés, tout simplement, dans ce festival. Foncez voir ce film, ça sort le 16 août. Je vous encourage tous à aller le voir. J'attends de voir les autres, mais en tout cas, j'espère quand même qu'il sera primé, parce que ce serait tellement mérité. Parce qu'il est absolument formidable. J'espère que ce film aura quelque chose. Et je pense que je suis juste tomber amoureux de ce film, et je vous le conseille fortement. Et tout simplement, je pense que sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Demain, je vois deux films. Je continue la compétition française. Donc, je vois le film État limite, qui est un documentaire qui suit un psychiatre dans un hôpital, et qui a l'air assez éprouvant à regarder, donc on verra bien. Et l'autre a l'air tout aussi éprouvant, puisque c'est Vincent doit mourir, film de genre français qui a l'air un peu fou quand même, donc ça, j'ai très très hâte de le voir, et je pense que c'est ma plus grosse attente de demain, si je dois en donner une. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas donc à suivre le podcast dans les prochains jours pour avoir l'interview d'Hugo David autour de l'acteur. Et n'hésitez pas aussi à partager ce podcast s'il vous a plu, à aller voir La Bête dans la Jungle le 16 août, et donc pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau débrief.